Je veux tout d'abord commencer par vous dire que ce terme de culture de masse, dans les cercles commencent à l'employer, a une définition conventionnelle. C'est un mot, disons, traduit de l'américain, parce que c'est aux États-Unis que, avant les pays d'Europe occidentale, s'est développé, à travers ce qu'on appelle les mass médias, la grande presse, la radio, le cinéma, la télévision, à travers ces mass médias, s'est développé une sorte de réalité nouvelle, sous beaucoup d'aspects, et que les sociologues américains ont nommé mass culture, et que nous traduisons par culture de masse. Mass signifiant culture produite massivement, car en effet, c'est massivement que un journal est reproduit à des millions d'exemplaires, que une émission radio est écoutée dans des millions de foyers, que le film est vu par des millions de spectateurs, et produite massivement, consommée massivement, et s'adressant à une masse humaine. Masse, c'est-à-dire à un agglomérat d'individus qui sont pris dans leur ensemble sans passer par l'intermédiaire de ces corps sociaux naturels qui sont la famille, la classe sociale, la province, etc. Dans ce sens, si vous voulez, il faut entendre le mot « masse » dans un sens plein et multiple, et non pas dans le sens des masses populaires, terme, si vous voulez, qui fait partie du vocabulaire politique ou social français traditionnel. Cette première précision étant faite, je vais en apporter une seconde. C'est que si la culture de masse est une culture qui a été produite et développée à travers ces masses médias, je le répète, presse, radio, cinéma, télévision, elle ne peut pas s'identifier totalement à eux, c'est-à-dire qu'à travers ces moyens de diffusion moderne, il y a par exemple des grands corps, des grandes cultures traditionnelles qui peuvent s'exprimer. Par exemple, la culture universitaire peut s'exprimer à travers les émissions scolaires et universitaires, à la radio, voire à la télévision. Puis même, il y a des films éducatifs, il y a une presse éducative. De même, la culture religieuse, il y a des films religieux, il y a une presse. De même, la culture nationale. Donc, ce n'est pas tout ce qui est produit par la radio, le cinéma, la télévision qui constitue la culture de masse, mais tout ce qui est produit sur un marché où il y a une sorte de loi d'offre et de demande, c'est-à-dire où vous avez affaire à des consommateurs qui, en quelque sorte, sont ceux qui se nourrissent à travers ces moyens nouveaux. Autrement dit, la culture de masse est une culture produite par une industrie culturelle sur un marché. Et en général, cette culture de masse, bien que nous en soyons imbibés, bien qu'il suffit d'ouvrir un bouton de radio pour en entendre les échos sous forme d'onomatopée comme yéyé, cette culture de masse n'en demeure pas moins extraordinairement ignorée par les intellectuels, les universitaires qui vivent dans ce milieu. On peut dire, sans aucun paradoxe, qu'ils connaissent mieux les mœurs des tribus les plus restreintes, les plus éloignées ou les plus archaïques des continents perdus que la culture, pratiquement, dont se nourrissent des millions de nos concitoyens. Autrement dit, pour lui donner une garantie absolue par-delà la mort ou une garantie pour lui enfin, on n'est plus à l'époque, disons, anthropocentrique, ethnocentrique, où chacun pouvait croire que son village était le centre de l'univers. Eh bien, je crois que, quelles que soient les raisons, n'est-ce pas, de l'insécurité, de l'inquiétude du monde moderne, mais cette inquiétude existe dans les individus, et le conformisme est une réponse aux besoins de sécurité. On se modèle sur les autres. Et du reste, il y a un livre, peut-être le livre le plus important de sociologie de l'Amérique, qui s'appelle « The Lonely Crowd » de David Riesman, « La foule solitaire », qui étudie un type moderne, ce qu'il appelle les extra-directed, les gens qui ont besoin d'avoir comme modèle les pères, non pas pères au sens paternel, mais leurs pères, leurs égaux, etc., pour ressembler à tout le monde. La peur d'être différent est une peur qui vient d'inquiétude. Autrement dit, le conformisme n'est pas une donnée première qui explique des choses. Il faut comprendre les causes du conformisme. Il ne faut pas dire ceci existe parce qu'il y a du conformisme. La question est pourquoi y a-t-il du conformisme ? Et le conformisme nous renvoie à un problème très profond. Et justement, je parle de ce problème car c'est le problème central, à mon avis, du point de vue moral et affectif, du nouvel humanisme dont il est question dans cette conférence. Autrement dit, le problème du nouvel humanisme est d'une attitude humaine et d'un savoir-vivre dans l'inquiétude et dans l'angoisse. L'humanisme, à mon sens, ne peut pas être une entreprise de brouillard de fumée qui essaye de masquer à l'individu et à l'homme, n'est-ce pas, tout ce qui est motif d'angoisse et motif d'inquiétude dans le monde. Nous savons, nous sommes dans une situation d'aventure humaine et d'inquiétude profonde, pas seulement parce qu'il y a quelques bombes atomiques, des fusées Polaris et autre chose, mais parce que nous sentons que la vie humaine est une chose extrêmement inquiétante.